Mardi a été inaugurée au mémorial de Verdun, en France, une exposition consacrée au général Maurice Pellet, un officier important de la Première Guerre mondiale, connu surtout en République tchèque et en Slovaquie pour avoir formé la nouvelle armée tchécoslovaque en 1919. Personnage oublié en France, l'exposition permet de découvrir un homme aux multiples facettes, comme nous le rappelle l'historien Jean-Noël Grandhomme, professeur à l'Université de Strasbourg.
L'exposition sur le général Pelé comble vraiment un vide, hein, parce que c'est un personnage qui est vraiment inconnu des gens qui ne s'intéressent pas de près à la Première Guerre mondiale. Et on découvre quelqu'un de multifacette, bon, un militaire bien sûr, mais aussi un artiste, un diplomate, un père. Je crois que c'est vraiment un beau succès et j'espère qu'il y aura beaucoup de visiteurs.
Comment est-ce que vous expliquez que justement général Pelé soit méconnu en France, alors que évidemment en République tchèque et en Slovaquie il est évidemment très connu. Il y a même des rues qui sont à son nom, par exemple à Prague.
Peut-être parce que justement il a beaucoup été en service à l'étranger. Et les Français s'intéressent d'abord à ce qui s'est passé en France. Et de toute manière, la Première Guerre mondiale a quand même tendance à être beaucoup oubliée. Je ne sais pas si les jeunes Français savent tous qui était même Joffre ou Foch. Peut-être le centenaire sera l'occasion de remettre en lumière un certain nombre de figures comme ça autour des grands chefs, en quelque sorte.
Alors, grâce au travail justement de sa petite fille, Isabelle Sandiford Pellet, qui est quand même conséquent, on découvre aussi grâce au film, grâce à l'exposition, grâce à un livre également qu'elle a publié, qui montre justement ses carnets de croquis, justement toutes ses facettes. Et alors, on se rend compte par exemple dans ce film, ce que peut-être on n'aurait pas imaginé, qu'il se rend en Allemagne, il côtoie l'empereur, côtoie Guillaume II. Dans le contexte de l'après-1870, ça peut surprendre.
Oui, effectivement, mais on était entre gens du même monde, alors on se côtoyait et les attachés militaires étaient, c'est assez curieux, invités aux manœuvres où ils pouvaient observer tout ce qui se passait, mais c'était une espèce de spectacle. Et Pelé parlait très bien l'allemand. Donc il avait un contact direct avec l'empereur lui-même et les hauts dignitaires du régime impérial. Et donc on se confiait à lui, mais on lui confiait aussi ce qu'on voulait qu'il répercute à Paris. Hein. Donc il y a une confidence calculée. Mais il arrivait souvent à voir à travers les lignes. Il n'était pas qu'un instrument, il arrivait à avoir sa propre opinion.
Vous disiez justement, dans le cadre de votre conférence, que c'était un personnage très clairvoyant finalement.
Mais là, on a vraiment, c'est pas simplement parce qu'on pourrait dire que je l'admire, alors je lui trouve toutes les qualités, mais on a des écrits qui restent et qui sont datés d'une époque qui précède les événements. Donc on peut se rendre compte qu'il a eu une clairvoyance, par exemple, dans le domaine de l'aviation, à une époque où beaucoup de gens, Foch pour commencer, pensaient que c'était un sport, mais que ça n'avait pas d'utilité militaire. Les Allemands s'intéressaient plus aux zeppelins. Il a aussi beaucoup parlé de l'artillerie lourde, ce qui était une des clés de la Première Guerre mondiale. Les Français étaient très en retard. Et il s'est rendu compte aussi de l'état d'esprit des Allemands de l'époque, tellement fiers de leur pays, qui se développe de manière industrielle, commerciale, militaire. Ils sentaient venir une guerre, parce qu'ils pensaient que les Allemands ne se contenteraient pas de ce qu'ils avaient.
Après la mission militaire tchécoslovaque, qui dure finalement, où il est en poste finalement assez peu de temps, hein, 2 ans, et pourtant, ce sont 2 années qui sont un grand tournant pour sa vie, puisqu'il se marie, puisqu'il tombe amoureux également même du pays. Il est envoyé à Constantinople comme ambassadeur, mais il est également malade. C'est une fin de vie assez rapide. Après, il n'a pas une vie, même avec sa femme, très longue en tant que couple. Vous parliez justement du fait, dans le cadre de votre conférence, qu'il était mort de tristesse également. Est-ce que vous pourriez justement un petit peu nous rappeler un petit peu cette fin de vie ?
À la fin de sa vie, il a été atteint d'une leucémie, donc c'était pas une maladie imaginaire. Mais peut-être sa fin a été hâtée par le spectacle qu'il a vu, c'est-à-dire en Europe centrale, la France a eu des positions fortes, des amis, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Roumanie. Mais un des grands rêves de la France, c'était aussi un rêve en Orient. Et en Orient, il voit que la France se fait en quelque sorte rouler par la Grande-Bretagne, qui s'octroie les territoires, peut-être pas les plus importants, mais qui rapporte beaucoup, comme l'Irak où on vient de découvrir du pétrole, la Palestine. La France est là simplement pour constater qu'elle n'est plus l'une des 2 ou 3 grandes puissances mondiales, même si elle croit encore l'être. Pelé, lui, se rend compte que la France a pris un coup très dur pendant la guerre, dont elle se relèvera que très difficilement. Et à une époque où tout le monde pense que la France est le grand vainqueur de la guerre, lui, il se rend compte que c'est une victoire un peu à la Pyrrhus. et que finalement tous ces sacrifices dans la Grande Guerre, il se demande s'ils n'ont pas été en partie inutiles. Et c'est ça qui le tue quelque part, parce que il a vu cette souffrance, la mort de tellement de gens, pour finalement un résultat qui est en demi-teinte, et un tel sacrifice ne pouvait pas se terminer en demi-teinte.
C'était donc l'historien Jean-Noël Grandhomme. Je vous rappelle qu'il est professeur à l'Université de Strasbourg et nous parlait du général Pellé.